Bien, avant de commencer, je voudrais demander à Jérôme, tu veux prier pour me remettre ce message? Amen. Eh bien, ce matin, nous allons méditer quelques pensées dans la troisième épître de Jean. Troisième épître de Jean. Nous allons lire entièrement parce qu'elle n'a pas deux chapitres, elle n'en a qu'un. Alors, disons qu'il n'y a pas de chapitre. Voilà. Et il y a en tout 15 versets. Alors, ce n'est pas très long, mais c'est une épître d'une très grande richesse et profondeur. Alors, troisième épître de Jean. L'ancien à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'étais fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans tout ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrèphe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Diotrèphe. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurai beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec de l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt, et nous parlerons de bouche à bouche. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salue les amis, chacun en particulier. Voilà. Nous avons là quelques versets intéressants. Et c'est vrai que si vous lisez la troisième épître de Jean, eh bien, vous ne trouverez pas une doctrine. Parce que le but de cette épître n'est pas de nous apporter une doctrine, mais c'est juste une lettre que Jean a écrite à un certain Gaius. Voilà. C'est une lettre personnelle qui est arrivée jusqu'à nous et qui est incluse dans la parole de Dieu. C'est une lettre simple qui nous donne, comment dire, quelques appréciations de l'apôtre Jean à Gaius. Il dit, Gaius, eh bien, tu te conduis bien. Et je n'ai pas le nombre de fois où il a mentionné le mot vérité, mais je vous encourage à le relire cette épître et à compter. Et vous verrez que le nombre de fois en 15 versets où Jean parle de la vérité. Alors, il n'y a pas de doctrine, mais il y a la vérité qui est mentionnée. Et la vérité, la doctrine, eh bien, c'est la même chose. Mais la vérité, ce n'est pas seulement la doctrine, mais ce sont aussi des principes moraux, des principes. Voilà, nous avons des principes, une manière de vivre, une manière de nous comporter. La vie chrétienne, c'est une manière de vivre. C'est d'abord une communion avec Dieu. C'est la communion que nous avons avec Christ, c'est la joie de Christ dans notre cœur. Mais dans la vie chrétienne, eh bien, il y a une manière d'être, une manière de faire qui est chrétienne. C'est malheureusement, vous avez ici dans cette lettre trois personnes. C'est Jean rend témoignage à trois personnes. La première, c'est Gaius, bien sûr, à qui s'adresse la lettre. Et puis, il est question de Diotrephe. Et puis, un certain Démétrius. Voilà. Des Démétrius, dans le Nouveau Testament, si ma mémoire est bonne, il y en a au moins trois. Et celui-ci est le troisième. Alors, c'était peut-être un nom assez commun, mais voilà. Il faut éviter de faire des rapprochements parce qu'il y a un Démétrius qui n'a pas bonne réputation dans le Nouveau Testament. Il y en a un, bon, ben, qui. Non, les deux précédents n'ont pas très bonne réputation. Ben, celui-là, oui. Mais la manière de vivre de Gaius, eh bien, il y avait des choses à souligner. Et Jean dit que cet homme se conduit bien. Par contre, quand il parle de Diotrephe, il dit Diotrephe se conduit mal. Et même, il dit une parole qu'il est bon de souligner et de garder précieusement dans son cœur. C'est le verset 11. « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. » Et nous sommes pesés et mesurés à ce poids et à cette mesure-là. Si vous faites le bien, vous êtes de Dieu. Si vous ne le faites pas, vous ne connaissez pas Dieu. Après, c'est vrai que vous pouvez dire, mais connaître, je suis chrétien. Oui, mais vous ne le connaissez pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont nés de nouveau, qui sont passés par toutes les étapes de la vie chrétienne, mais qui se conduisent mal et qui vivent mal. Qui ne vivent pas selon les principes bibliques. Parce que dans la Bible, il y a des principes, il y a des règles de conduite. Un chrétien se voit à sa conduite. On voit sa manière de vivre, sa manière d'agir, ses réactions. Si vous êtes quelqu'un d'emporté et de violent, et malheureusement je connais pas mal de chrétiens qui sont emportés et violents, vous n'agissez pas bien. Si vous êtes dans la convoitise, que la convoitise soit de la sorte que vous voulez, peut prendre toutes sortes de formes, hein. Vous n'agissez pas bien. Parce que la parole de Dieu nous dit de nous contenter de ce que nous avons. J'ai cité deux exemples, je pourrais en citer beaucoup d'autres. Nous sommes au salon de l'auto. Gabriel l'a mentionné. Et tous ces gens, qu'est-ce qu'ils vont faire au salon de l'auto? Eh bien, ils vont convoiter. La voiture qu'ils n'auront jamais. Parce qu'une voiture de 200 000 ou 300 000 euros, je leur laisse regarder ce genre de choses parce que j'aime la mécanique. Je sais démonter un moteur de voiture, je sais le remonter, je sais le régler. Ce n'est pas une vantardise, je l'ai fait. J'ai réglé des moteurs de voiture beaucoup plus compliqués que vous pensez. Et j'aime la mécanique en elle-même. Mais ce que je cherche dans une voiture, c'est qu'elle me conduise d'un point à un autre en toute sécurité. Et le plus économiquement possible aussi. Si je roule dans une voiture au-dessus de mes moyens, eh bien, je ne suis pas raisonnable. Et la voiture à 300 000 euros, c'est un petit prix, hein, parce qu'il y en a qui sont, je ne vous citerai pas, hein. Eh bien, elle a sa consommation qui est au-dessus du budget de la plupart d'entre nous. Donc, il faut faire attention à cette convoitise. Et donc, on connaît Dieu. Et on aime Dieu. Et on fait attention à la manière dont on réagit, à la manière dont on se comporte. On marche, et c'est Jean qui le dit dans sa première épître, on marche dans la lumière. La vie chrétienne est une marche dans la lumière. Une marche où, si vous avez quelque chose à dire, à avouer, eh bien ce n'est pas difficile de le dire. C'est si on vous pose une question directe, est-ce que vous allez répondre par simplement la vérité ou avouer, non, je n'ai pas pu parce que j'ai été un peu timide, j'ai hésité, je n'ai pas osé. Voilà, c'est des choses faciles à dire. Mais si vous êtes obligé d'avouer quelque chose que vous faites en secret et qui ne se nomme même pas, eh bien, vous allez répondre par un mensonge. Où as-tu été? Je suis allé me promener. Tu poses des questions que c'est un peu trop personnel. Mais on doit pouvoir dire. Je me rappelle d'une jeune fille un jour, elle m'a dit, tu vois, ce que je veux faire, c'est des choses que je peux avouer à ma mère. C'est un bon principe. Je dis jeune fille, elle n'était pas si jeune fille que ça, hein. Mais elle avait vécu une vie. Bon, elle était célibataire, hein, elle vivait sa vie toute seule. Mais elle pouvait dire, je peux avouer à ma mère ma vie, ce que je fais. Et c'est quelque chose, vous savez, que de pouvoir vivre une vie chrétienne où on peut dire et on peut parler, on peut rendre témoignage, on peut dire ma vie, elle est dans la lumière. Vous pouvez mettre une lumière dans chaque domaine, dans chaque recoin de ma vie. Il n'y a rien de caché, rien de trouble, rien de secret qui est méprisable et que je suis obligé de. Et c'est ce que ce Diotref, voilà, il était arrivé à des choses. Vous vous rendez compte, en arriver à ce point, chasser les personnes de l'Église parce qu'elles ne sont pas d'accord avec nous? Et sur des pas d'accord, ce n'est même pas de la doctrine. C'était pas d'accord sur des. Il recevait des gens qui ne recevaient pas et qui étaient. Et de quel droit? On peut se poser cette question. Et cet homme-là avait des choses à cacher, des choses secrètes, des choses mystérieuses. Il ne pouvait pas vivre une vie dans la lumière. Ce que je vous demande, c'est faites toujours attention, posez-vous la question. Si on me pose une question, est-ce que. Vous pouvez répondre. Mon père le savait et il me posait toujours des questions directes. Alors comme il sait que je ne mens pas, que je ne sais pas mentir, si je mentais, ça se verrait tout de suite. Donc je ne sais pas. Si quelqu'un me pose une question directe et que j'ose pas répondre, ça se voit tout de suite. Il y a quelques dixièmes de seconde où j'hésite et on sait que je ne. Et donc mon père le savait et il me posait toujours des questions directes et il me disait, mais tu. Et je dis, oui, papa, c'est comme ça. J'ai fait ça, oui, c'est vrai. Mais je n'avais pas grand-chose à avouer, il était toujours très content de moi. Hein. Et alors, c'était quand il me téléphonait, il me disait, est-ce que ça va bien financièrement? Bon, je t'envoie quelque chose. C'est comme ça. Donc, on est dans la vie chrétienne, une vie dans la lumière. La lumière, c'est la parole de Dieu. C'est un chrétien lit et médite la parole de Dieu pour vivre dans la lumière. C'est un jour dans ma vie chrétienne, j'ai pris une décision. Oh, il y a pas mal de temps déjà, hein, et j'ai écrit des carnets. J'ai écrit une vingtaine de carnets, surtout tout le Nouveau Testament quasiment, et chaque verset. Et j'ai pris cette parole de marcher dans la lumière. Et j'ai voulu que la parole de Dieu éclaire ma vie. Et qu'elle illumine chaque domaine de ma vie. Et je ne me suis laissé aucune pitié, aucune intransigeance. Pendant des années, j'ai lu chaque verset en me mettant à la lumière. Tu es coupable là. Tu as mal fait ceci. Tu n'as pas fait ça. Et je me rappelle être tombé un jour sur l'histoire des pharisiens, parce que je commençais par l'évangile de Jean. Bien entendu. Et alors, je me suis dit, ces pharisiens quand même, ils étaient pénibles, hein. Et puis, comme j'avais pris cette décision de méditer la parole de Dieu de cette manière, alors je me dis, mais est-ce que tu peux voir si tu es un pharisien? Alors j'ai fait une liste, j'ai pris un papier, et je dis, voilà, quels sont les pharisiens? Alors j'ai noté, voilà, ils sont hypocrites, ils mènent, nanana. J'ai trouvé une dizaine, ou entre 10 et 15 problèmes chez les pharisiens. Et à la lumière de ce qu'étaient les pharisiens, je me suis examiné. J'en ai pas raté une. Ah, s'il y en avait 15, j'étais 15 fois de pharisien. Oh, je me suis dit, c'est pas possible. Tu es un pharisien. Tu es un hypocrite. Tu es un menteur. Tu parais quelqu'un que tu n'es pas en vérité. Ah, le paraître. Qu'est-ce que nous aimons paraître? Mais ce que nous sommes, on le cache bien. Et nous sommes donc des menteurs et des pharisiens. C'est une mise à la lumière. Alors je suis allé voir un frère que je nommerai pas, parce qu'il est connu dans le monde chrétien. Et je lui ai dit, tu sais, j'étais fortement repris. Le Seigneur m'a vraiment troublé. Il m'a dit que j'étais un pharisien. Et je lui ai dit, tu sais, et je crois que nous sommes des pharisiens. Et donc j'ai étendu la chose un peu plus loin. Il m'a dit, non, nous ne sommes pas des pharisiens. Parce que les pharisiens ont crucifié le Seigneur Jésus et nous non. Et je n'ai pas insisté. Parce que je me suis dit, ça, c'est une vraie réponse de pharisien. C'est, si nous mettons notre vie à la lumière de la parole de Dieu. Et je vous encourage à le faire. Parce que ça m'a pris des années, j'ai écrit une vingtaine de carnets, je n'en ai plus qu'un, hein. Les autres ont disparu. Mais j'espère que la personne qui va le lire ne va pas me juger trop sévèrement. Mais bon, bref. Mais c'était une expérience extraordinaire. C'est de lire la parole de Dieu et de ne se laisser aucune place pour la pitié. Parce que j'ai voulu me juger avec le regard de Dieu. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et que cette parole agisse en moi. Je n'ai pas voulu me chercher des excuses, me trouver des compromis ou me faire passer en douce. Non, c'était sans pitié. Parce que, vous savez, le péché, on n'a aucune pitié avec lui. Nos manières d'être, on dit bonjour au frère, on lui fait un grand sourire, mais dans le dos, qu'est-ce qu'on pense mal? Et on arrive à même parler mal du frère ou de la sœur, et à dire des choses regrettables, parfois, vraies ou pas vraies. Parce que parfois, il y a bien des exagérations, parce qu'on a vu clair. Nous, on est des spirituels, le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on peut faire dire au Saint-Esprit? J'ai connu des personnes qui avaient le Saint-Esprit à la bouche constamment et qui disent « Le Saint-Esprit m'a montré, le Saint-Esprit m'a parlé, le Saint-Esprit ceci, le Saint-Esprit ça. » Et finalement, c'est leur cœur mauvais et incrédule, leur cœur rempli de jugement et de méchanceté qui avait vu clair dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est pas le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit. Ne soyez pas trop vigilants sur la vie des autres. Votre frère, votre sœur, s'il est tombé, et qu'il ait votre amour, votre compassion, votre miséricorde. Vous avez vu, votre regard est tombé sur lui. Je me rappelle de cette histoire. C'était Marcel Pagnol, vous avez peut-être entendu parler de cet homme, hein, avec la gloire de mon père. Mais c'était la gloire de son père, c'est justement. S'il était allé, il avait attrapé, tué deux Bartavelles. C'est des perdrix des montagnes. Hein. Donc ça se dit comme ça du côté de Marseille. Et alors, il était revenu. Alors son père, qui était un homme droit, un homme scrupuleux, vraiment un légaliste complet, hein. Parce que, quoique ne croyant pas du tout en Dieu et rejetant toute forme de religion, il était très légaliste. Et alors, il se moquait de personnes qui avaient de l'orgueil, etc. etc. Et lui eh bien, avec ses fameuses Bartavelles, les a portées à la ceinture. Et il a fait tout le tour du village, et tout le monde parlait, il expliquait, et finalement, quand il a vu son père, orgueilleux, comme c'est pas possible, comme n'importe quel être humain, et alors qu'il le montait aussi haut, hein, c'était son Dieu, il a dit « J'ai surpris mon père en flagrant délit d'humanité. » Et j'ai aimé la phrase, c'est pour ça que je vous ai raconté cette histoire. « J'ai surpris mon frère en plein délit d'humanité. Mon frère, ma sœur, vous êtes des êtres humains et vous avez des faiblesses, que je regrette d'ailleurs, mais je vous aime quand même. » On ne doit pas parler mal les uns des autres. Si vous avez vu quelque chose qui ne va pas, ne parlez pas, n'ouvrez pas votre bouche. C'est votre frère, c'est votre sœur. Nous sommes de la même famille. Nous portons les fardeaux les uns des autres. Si nous avons une faiblesse, alors aidons le frère. Attendons même qu'un frère ou qu'une sœur vienne nous aider. N'ayons pas ce mouvement, hein. Oh, moi je me débrouille tout seul. On a besoin les uns des autres. On est une famille. Et c'est très important. On marche dans la lumière. On ne marche pas dans les ténèbres. C'est ce que dit « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. » Celui qui fait le bien est de Dieu. Ça ne veut pas dire que nous ne tombons jamais. Il arrive de tomber, malheureusement. Parce que nous sommes encore dans l'humanité. Nous ne sommes pas encore dans le ciel. Alors nous allons tomber. Je souhaite que non. Je souhaite que ce soit le moins possible, mais il va y avoir des chutes. Et si nous n'avons pas un frère ou une sœur pour nous relever, pour nous aider, pour nous encourager, cette petite parole d'encouragement, cette petite parole qui est ce sourire, on a compris, tu n'es qu'un être humain, et tu as aussi des faiblesses, comme tout le monde. Soyez patients les uns envers les autres. Imite le bien, n'imite pas le mal, fais le bien, et tu es de Dieu, et tu es dans la lumière, et tu fais ce qui glorifie Dieu. Ça, c'est très important. C'est là que nous nous rendons compte que les liens que nous avons sont des liens fraternels, de vrais liens fraternels. Ce n'est pas des mots que nous prononçons. C'est beaucoup plus qu'un mot. Si nous disons à un frère ou à une sœur, mon frère, ma sœur, bon, c'est tout à l'heure, je le disais à quelqu'un dans l'église, mais quand nous étions, ma vie chrétienne, je ne me suis pas converti aux Antilles, mais mon premier contact était aux Antilles, à la Guadeloupe en particulier, voilà, c'était à la Guadeloupe, et mes parents se sont convertis là. Et j'étais dans une très grande église, il y avait 350, 400 personnes tous les dimanches, hein. C'était voilà, un très grand bâtiment, il y avait des classes d'enfants et des classes de jeunes et tout ce que vous voulez. Et c'était là-bas, ben, on se disait frère. C'est « Ah mon frère, bonjour ma sœur ». Ici, ce n'est pas la coutume, mais ça se faisait là-bas. Et, mais c'est beaucoup plus qu'un mot, c'est beaucoup plus que de se taper sur l'épaule, que de se faire une accolade, de se faire une bise, c'est beaucoup plus que cela. Parce que nous avons des liens profonds, des liens sérieux, des liens spirituels. Il y a le même esprit, il y a les mêmes jointures, il y a les mêmes, comment dire, raccourcis. Nous retrouvons, nous avons les... quand on parle des mêmes choses, on est dans les mêmes conditions. C'est si nous avons un problème, le frère ou la sœur a aussi un problème. S'il y a une difficulté sur son chemin, il y a aussi des difficultés sur notre chemin. Si le frère ou la sœur tombe, nous tombons aussi. Pas de la même manière, heureusement. Pas de la même manière, mais nous tombons aussi. Certains ont une langue un peu trop longue. D'autres ont l'esprit un peu trop vif. D'autres disent une parole qui dépasse un petit peu la mesure, et etc., etc. Mais nous avons besoin les uns des autres. C'est quelque chose de très important. C'est marcher dans la lumière. Bien-aimé, n'imite pas le mal. Imite le bien. Recherche le bien. Fais ce qui est bien. Fais ce qui glorifie Dieu. C'est dans toutes les situations. Est-ce que je vais pouvoir dire ce que je fais à n'importe qui? Si on me pose la question, est-ce que je vais pouvoir répondre? Sans hésitation. Si ce n'est pas le cas, alors abstenez-vous. Faites attention. Parce que le bien, c'est un bon témoignage. Parce que quand on lit cette épître, on se rend compte que Jean, eh bien, rend témoignage. Il rend témoignage à trois personnes. Bon, le troisième, il ne dit pas grand-chose. Mais la première, c'est un bon témoignage. La deuxième, c'est un mauvais témoignage. Nous avons une réputation. Parce que notre témoignage, c'est notre réputation. Il y a des gens, et Jean le dit, Gaius, j'ai entendu parler de toi. Il connaissait Gaius. Mais il dit, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Ils ont rendu témoignage. Ils ont dit, ah Gaius, s'il y a un frère dans l'église, c'est bien lui. S'il y a des frères étrangers, il y a eu des étrangers qui sont arrivés. Et on a probablement raconté l'histoire parce qu'on la retrouve un petit peu. Hein. C'est des frères qui venaient d'ailleurs et ils n'ont pas accepté que des païens leur donnent un moyen financier de subvenir à leurs besoins. Ils ont dit, c'est par la foi que nous marchons. C'était une bonne chose. Et voilà qu'ils étaient dans le besoin. En difficulté financière et matérielle. Et Gaius les a accueillis. Et Jean, et c'est probablement la raison pour laquelle Jean a écrit cette épître, cette lettre, il a dit, eh bien, ton adhésion, hein, si je puis m'exprimer ainsi, à la parole de Dieu, à l'enseignement biblique, à la vérité, eh bien, se prouve par tes œuvres, par ta manière d'agir. Il te dit la vérité qui est en toi et la manière dont tu marches dans la vérité. parce qu'il ne se contente pas d'avoir la vérité. Ah, mais moi, je suis dans la vérité. Hein. Je me rappelle de cet homme. Hein. C'était quelqu'un qui m'a dit, oui, mais c'est le genre de personne qu'il dit, ma femme et moi, nous sommes dans la vérité. Et parfois, ma femme, j'ai des doutes. Et ben, il y a des personnes qui n'ont pas la vérité seulement comme cela. C'est la vérité, c'est l'enseignement biblique qu'ils mettent en pratique. Il y a la vérité. La vérité est dans la parole de Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. Satan essaye toujours de remettre en question la parole de Dieu. Toujours. Il nous laisse entendre que oui, mais si tu fais ça, c'est pas plus grave, finalement. Et tout le monde le fait. Et il y en a d'autres qui, avant toi, mais bon, tu demanderas pardon quand tu vas tomber. Bon, bien sûr, tu es humain, tu es comme tout le monde. Hein. On tombe tous, bien sûr, tombe. Tu te relèveras après. Tu verras, qu'est-ce que tu veux. Mais la vérité qui est en nous, cette vérité que nous avons, nous nous sommes appropriés. Je ne peux pas faire ces choses-là. Parce que ces choses, la parole de Dieu dit non. Si je les fais, je ne suis plus en accord avec la parole de Dieu. Alors, je m'en abstiens. Et je peux vous dire, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Les frères et sœurs je pense que c'était des frères, hein, qui sont, nous, les païens, on ne reçoit rien d'eux. C'est ce qui est dit dans la parole. Ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Et il y a des personnes qui disent non, je ne reçois pas un soutien de la part des gens du monde. Je reçois un soutien de l'Église, des frères et sœurs. C'est parce que, je vous rappelais l'histoire d'Abraham. Vous rappelez l'histoire où Abraham est revenu de la. Il avait remporté la victoire sur les rois de Kedorlaomer, etc., les cinq rois. Et puis, il y avait le roi de Sodome qui était avec Abraham. Pour une fois, il était du bon côté, ce roi de Sodome. Et puis, il a voulu lui dire voilà, prends le butin. Il a dit non, je ne prends rien. Je prends que ce qui est à moi. Mais ce qui est à toi, prends-le. Je ne veux pas que tu dises, j'ai enrichi Abraham. Parce que les gens du monde disent, oh, mais nous, l'Église, oui. Nous n'étions pas là, je ne survivrais pas. Et combien de chrétiens font des appels à des ceci, à des associations, à des machins et des trucs. Non. Je me rappelle un jour, c'était tout à fait au début de mon ministère, j'étais à Saint-Malo. Il y avait, je ne sais pas si ça existe toujours, un poste de l'armée du salut à Saint-Malo. Et c'était un poste qui s'occupait d'orphelins, et plutôt de cas sociaux. Et alors, les personnes qui s'occupaient de ce poste, des chrétiens donc, de l'armée du salut, des chrétiens, ils ont fait appel à des fonds de la région parce qu'ils avaient besoin de refaire des bâtiments, de rénover, restaurer, beaucoup de bonnes raisons. Et bon, d'accord, il n'y a pas de problème, oui, vous êtes une œuvre associative, nous nous occupons aussi des associations, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Le bâtiment était remis à neuf. Ah, les peintures étaient belles. Et j'ai vu le commissaire pleurer à son bureau. Il a dit, nous n'avons même plus le droit d'annoncer l'Évangile. Parce que nous sommes devenus une œuvre laïque. Parce qu'on a reçu de l'argent de l'État. L'État ne donne de l'argent qu'aux œuvres laïques. Il faut respecter la laïcité. Et je vais vous dire, la fameuse laïcité, ce n'est pas laïque. Ce n'est pas vraiment. On ne fait pas de la propagande pour la laïcité, on fait pas de la propagande pour l'athéisme. Ce n'est pas pareil. La laïcité, ça veut dire que nous ne prenons pas parti pour une conviction religieuse ou pour une autre. Alors, n'est pas donc ni athée, ni protestant, ni catholique, ni musulman, ni quoi que ce soit. On est laïque. Mais malheureusement, ceux qui se prétendent laïcs prêchent l'athéisme. Et ce que vous avez dans les écoles laïques, c'est la propagande athée, pas laïque, c'est pas vrai. Donc il faut bien faire attention. Et il y avait des moniteurs expérimentés, diplômés, etc., qui venaient s'occuper donc de tous ces enfants. Ils étaient tous communistes. Et alors là, ce n'était plus la laïcité. Et ils parlaient contre Dieu. Et ils montaient les enfants contre les quelques chrétiens qui étaient encore là. Le bâtiment appartenait maintenant à l'État. Parce qu'ils avaient versé, ce n'était pas des grosses, grosses sommes, mais à partir du moment où on devait, on était pris au piège. Et donc, c'est pour cela que je vous dis, faites attention à ce qu'on reçoit des païens, des non-chrétiens. On les aime, mais on leur doit quelque chose. C'est l'Évangile. On a une dette d'amour vis-à-vis d'eux. On doit les aimer comme Christ a aimé le monde et a donné sa vie. Et nous, nous devons donner notre vie pour le monde et donner notre vie pour que l'Évangile soit annoncé, qu'il soit annoncé le plus largement possible, au plus de monde possible et le plus loin possible. Ça, c'est notre devoir de chrétien. Mais recevoir des biens de la part des gens du monde, faites attention. Parce qu'il ne faut pas que l'on dise qu'on nous a enrichis. Et c'est ce Gaius qui a reçu des gens qui avaient pris de bonnes résolutions. Alors parce que les gens disent, mais ils ont quand même, ils sont allés un peu trop loin. C'est une foi un petit peu mystique. Hein, ils sont un peu fanatiques de ne pas avoir reçu d'argent de la part des païens. Certains pourraient le dire. Mais non, non, c'est une très grande sagesse. Parce qu'on n'achète pas le ciel. Si quelqu'un vous donne une pièce, il croit qu'il a gagné le ciel. Qu'il vous fait une faveur, qu'il va y avoir un retour de la part de Dieu. Probablement, Dieu peut le bénir et peut l'encourager. Mais on ne doit pas rester sur ce terrain. Les personnes à qui on annonce l'Évangile, eh bien, on ne reçoit pas. Parce qu'on annonce l'Évangile. On leur doit l'Évangile. Il faut faire attention. Donc Gaius, lui, mettait en pratique la vérité. Et ses frères et sœurs qui avaient pris de pareilles décisions, eh bien, il les a reçus chez lui. Il a fait du bien. Il a fait tout ce qu'il fallait pour que ces personnes soient réconfortées et qu'elles reprennent courage, que leur foi ait trouvé une bonne raison de s'exprimer. Voilà, ils ont eu la foi en Dieu, il y a un frère qui les a reçus, qui a été la main de Dieu pour les délivrer dans une telle situation. Et quand Jean parle de Gaius, eh bien il dit « la vérité qui est en toi ». C'est exprimé, elle s'est manifestée. Il ne s'est pas contenté d'avoir « moi je suis un bon chrétien ». Mais ça ne se voit pas. Ça ne se constate pas. Je suis un bon chrétien à l'intérieur. Et oui, nous aimons les frères et sœurs, mais nous ne faisons pas grand-chose pour eux. On a beaucoup d'amour fraternel le dimanche matin. L'après-midi, on ne se voit plus. Donc c'est seulement le matin. Et c'est juste pendant le culte. Mais nous avons de l'amour fraternel. Mais oui. Je vois des sourires. Ce n'est pas une plaisanterie. C'est quoi que ce soit, je le dis avec humour, mais il faudrait le dire avec larmes. Parce que nous avons tellement à apprendre. Nous avons besoin de nous remettre en question. Ne soyez pas satisfaits de vous-même. Ne soyez pas satisfaits de la manière dont vous exprimez l'amour fraternel. Vous avez encore besoin d'apprendre. Et j'ai besoin d'apprendre. Je ne suis pas encore à l'école. Ce n'est pas parce que je prêche, parce que je dis les choses, que je suis au-dessus de vous. J'ai autant besoin de vous, de cette vérité. J'ai besoin qu'elle soit appliquée dans ma vie parce que je me rends compte à quel point je manque d'amour fraternel réel. Pas l'amour qui est dans mon cœur. Ah, vous savez, j'aime... Il y a un frère chinois qui est avec nous. J'aime les Chinois. Ils sont à l'autre bout de la terre. Mais mon voisin, je ne le supporte pas. C'est quelque chose quand même, d'avoir un amour qui va au bout de la terre et qui n'est pas suffisant pour... il est si vaste, c'est comme ça. Mais ce Gaius, eh bien, son amour était pratique. Parce que l'amour qui est un sentiment, on aime tout le monde, mais s'il n'est pas pratique, il ne sert pas à grand-chose. Bien sûr, on peut se dire bonjour, se serrer la main, être très fraternel, avoir exprimé des émotions. Mais parfois, il faut plus que des émotions. Il y a des personnes qui souffrent. et qui ne le montre pas. C'est, il y a une souffrance dans le cœur. Et je peux vous dire que nous sommes tous ici. Et chacun, si je posais la question à chacun d'entre vous, chacun me dirait, en fait, au fond de moi-même, j'ai une souffrance. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai un souci. J'ai quelque chose qui ne va pas. Et nous sommes tous là, à ce point-là. Et je peux vous dire, nous avons tous besoin de cet amour fraternel qui se communique, qui se manifeste, qui est, c'est pas seulement, on va plus loin. C'est donc, on a la vérité, et la vérité c'est cet amour qui est en nous. Mais nous devons l'exprimer mieux, davantage. C'est, alors je ne sais pas, mais ne perdez pas des occasions. Soyez de vrais frères et de vraies sœurs les uns pour les autres. Ne soyez pas simplement des personnes qui aiment de loin. C'est « Ah, je pense à toi le dimanche matin. » La semaine, « Ah oui, c'est vrai. » C'est oublié totalement. On peut passer 6 jours et demi en ce que l'Église n'existe pas. Ah mais franchement, vous pouvez gommer cela de votre esprit et faire l'abstraction totale. Et puis, on se rencontre, voilà, ben, « Oh, c'est dimanche, je vais à l'Église. » Oui, bon, il faut y aller. J'ai l'habitude d'y aller, hein, si vous... Mais on n'y va pas avec joie. On n'y va pas pour rencontrer les frères et sœurs. Il n'y a pas ce... En soi, c'est... Oh, je vais rencontrer mes frères et mes sœurs. C'est quelque chose. Vous savez, c'est quelque chose que nous devons apprendre. Il faut grandir. D'abord, on constate que l'on manque. Il y a un moment où on dit, je ne marche pas dans la vérité. C'est vrai. Je ne suis pas Gaius. Je ne marche pas dans la vérité. Je ne suis pas Diotrephe non plus. Je ne mets pas dehors parce que dans cette histoire, pour la compléter, si vous faites le rapprochement entre Gaius et Diotrephe, et ce n'est pas pour rien que Jean l'a écrit dans son épître, c'est que quand Gaius a agi de cette manière-là, Diotrephe l'a mis à la porte. Il semblerait que ce soit ça. Parce que ce Gaius qui marchait si bien et que Jean loue de cette manière... Eh bien, il a probablement été mis à la porte de l'Église, à cause justement de ce qu'il recevait des frères étrangers. Parce que c'est bien dit. J'ai écrit quelques mots à l'Église, et Médiotrèphe, qui aime à être le premier parmi nous, eux, ne nous reçoit pas. Point. C'est pourquoi, si je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant comme nous contre nous méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Mais Gaius, lui, a reçu des frères. Le rapprochement, vous savez, il se fait tout seul. Hein. Alors, il y a une manière d'être. Il y a une marche dans la lumière. Et il y a une marche dans les ténèbres. Il y a une marche dans l'obéissance. Et il y a une marche dans la désobéissance. Alors, beaucoup de gens disent, mais je n'ai pas désobéi. Si. Nous disons que nous n'avons pas commis tel péché. Moi, je n'ai pas parlé mal d'une personne ou des personnes. Je ne suis pas méchant avec elle. Je ne me mets pas en colère. Je ne garde pas de rancune. Je ne fais pas. Mais tout ça, c'est négatif. Mais qu'est-ce que vous faites positivement? C'est là toute la question. Mais heureusement, si vous ne parlez pas mal les uns des autres. On ne va pas vous dresser une couronne et mettre une statue pour dire « Oh là là, gloire à ce frère et cette sœur qui ne parle jamais mal des autres !» Mais c'est normal de ne pas parler mal. C'est grave de parler mal les uns des autres. Et nous voudrions qu'on nous dise « Ah ben c'est hein, apporter vraiment, on va citer un exemple dans l'Église. Hein. Lui au moins, il ne parle jamais mal. » Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous sommes les uns pour les autres? Est-ce que nous prions les uns pour les autres? Est-ce que nos frères et sœurs sont importants pour nous? Et je pourrais citer beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce que nous avons les uns par rapport aux autres? Qu'est-ce que nous faisons les uns par rapport aux autres? C'est très important, vous savez. Il y a un choix. Oh, bien sûr, on peut trouver, et beaucoup de personnes sont dans des positions intermédiaires. Ce ne sont pas des Diotrephes, ce ne sont pas des Gaius. Ils ont choisi une voie moyenne. Alors, quand nous sommes devant le regard de Dieu, nous sommes soit des Gaius, soit des Diotrephes. Alors vous dites, je n'ai pas mis quelqu'un dehors, je ne suis pas un diotrèfle. Si, vous l'avez mis dehors, pas en dehors de l'Église, mais en dehors de votre vie. Vous avez chassé une personne de votre cœur, vous ne la recevez pas. Et nous, nous croyons que nous marchons dans la vérité. Non, nous ne marchons pas dans la vérité. Nous n'avons pas une action, parce que nous sommes un peu civilisés. Faisons attention quand même, on a des principes de politesse. On fait attention à ne pas blesser quelqu'un, mais on n'accueille pas. On n'est pas suffisamment chrétien. Il nous manque la vie. On a une foi morte, on a une vérité morte. Elle est enterrée au fond de notre cœur, elle est morte. Depuis longtemps, nous avons endurci notre cœur vis-à-vis les uns des autres. Et nous devons bien faire attention. Mettez-vous à la lumière de la parole de Dieu. Ne vous laissez aucune chance. Regardez vers Dieu et dites, Seigneur, ouvre mon cœur, prends toute la place. Mais que ma vie chrétienne ne soit pas une vie chrétienne vécue pour moi, mais qu'elle soit vécue pour les autres. Je vais vous raconter une dernière petite histoire. C'est une histoire personnelle. Je me rappelle quand le Seigneur Jésus m'a fait la grâce de se révéler à moi d'une manière beaucoup plus prononcée que je le connaissais de nom, mais il est devenu précieux pour moi. Même quand je parle encore, je suis ému, parce que ça a été vraiment un bouleversement dans ma vie. Mais la tentation, c'était de ne pas en parler. Mais si j'en parle, les autres vont en savoir autant que moi. Ah ! Eh oui ! Il risque de me dépasser. Ah là là, quand j'ai compris le mal, cette perversité qu'il y avait dans mon cœur, je me suis humilié. J'ai crié à Dieu d'avoir pitié de moi. C'est pour cela. Parfois, il y a des personnes qui peuvent dire, Jean-Alain, il parle un peu trop de lui. Je parle parce que je veux vous amener, sinon autant aussi loin que moi, si ce n'est pas plus loin que moi. Et je me réjouirai que vous alliez plus loin. Parce que je voudrais dire, comme Jean, je me réjouis si mes enfants vont plus loin dans la vérité. Et s'ils ne demeurent pas stationnaires. Et s'ils font des progrès. C'est cela, la vérité. C'est cela, l'important. Soyez perdants. Acceptez de perdre pour que les autres gagnent. Et c'est là que vous allez manifester votre amour. Non seulement pour les frères et sœurs, mais pour Christ. Vous serez droitement le chrétien que vous devez être. Vous le serez en totalité. Parce qu'être chrétien, ce ne sont pas des mots, c'est une vie. Ça se manifeste. C'est quelque chose qui se voit. C'est le chrétien qui ne se voit pas, on peut dire qu'il n'est pas chrétien. On peut avoir des doutes.